Bonjour. Entre le Covid, les maladies, le froid et que sais-je, nous sommes souvent moins nombreux le dimanche matin. Gay a hâte de nous rejoindre et regrette beaucoup de ne pas être avec nous ce matin. Mais la bonne nouvelle, c'est que son opération du pied s'est bien passée et en principe, elle sera avec nous dimanche prochain. Tout à l'heure, Baptiste a cité un texte qui m'a rappelé son centre. Je vais le retrouver d'ailleurs. Qui lit « Tous les habitants du monde crient de joie pour le Seigneur. » Servez le Seigneur joyeusement. Approchez-vous de lui dans la joie. En 1969, Gay et moi, et deux de nos enfants, nous sommes repartis pour la France pour la première fois. En quittant notre famille, nos amis, notre pays, notre langue. Et on savait que ça allait être une grande aventure. Peut-être même des moments d'épreuve, il y en a bien, certainement. Mais le verset, on avait choisi ce verset comme un verset de départ pour quitter le pays. Servez le Seigneur joyeusement. Et des fois, pour servir, il faut des sacrifices. Des sacrifices qui ne sont pas toujours faciles, mais nécessaires. Et il peut y avoir un sentiment de penser à ce qu'on a laissé. Et ça peut miner la joie. Et on avait décidé, non, nous n'allons pas nous pleurer et nous affliger parce qu'on laisse des choses qu'on aime, parce que le Seigneur est avec nous. Et comme on dit, le meilleur est toujours devant. J'ai un bon ami, Lamanon, qui arrive à la fin de sa vie, il a 88 ans, et on se rencontre tous les mercredis avec d'autres personnes pour le café et pour parler de la pluie et du beau temps. Et la dernière fois, il a dit, Tom, j'ai peur de la mort. Je sais que la mort s'approche, ça s'antidémie beaucoup. Et j'ai dit, Émile, c'est vrai. Nous sommes dans la phase dernière de notre existence sur Terre, mais rappelons-nous, le meilleur est toujours devant nous. Bien sûr, il faut connaître le Seigneur, il faut avoir confiance en lui, et Émile est une de ces personnes, il a confiance en Dieu, mais parfois, sa confiance lui fait défaut. Et Émile, il faut que tu réfléchisses bien, le meilleur est devant toi. Tu ne laisses rien derrière toi qui n'est pas meilleur de ce qui est devant toi. Je ne sais pas où vous en êtes ce matin, si vous êtes découragé, encouragé, mais il y a un message de la part du Seigneur qui peut nous encourager ce matin. Et j'ai intitulé notre méditation. Le fer aiguise le fer, Proverbe 27, 17. Le fer aiguise le fer. Les gens deviennent plus humains au contact des uns des autres. Ou une autre traduction. Le fer aiguise le fer. Le contact avec autrui affine l'esprit de l'être humain. Aiguise, affine. L'Église est une famille. Ceux qui ont mis la confiance en Dieu sont entrés dans une famille qui dépasse toutes les familles de ce monde. Et une famille qui va durer jusque dans l'éternité. Et quelle joie pour nous d'être membres de cette famille. Mais pour que cette famille connaissent la profondeur, la grandeur de cette relation, il faut le contact humain. Quelque chose de très simple, le contact humain. Ce contact est à la fois un sujet de joie et de tristesse. Tous nos contacts humains ne sont pas favorables. C'est peut-être même parfois au sein du mariage, j'ai eu des conflits entre le mari et l'épouse, et des moments difficiles. Mais sur l'ensemble, le contact humain doit être une occasion d'être affiné, aiguisé. J'ai emmené avec moi ce matin un outil, une lame qui aiguise le fer. Qui aiguise cette lame est bien usée et elle ne marche pas très bien. Mais elle sert à aiguiser ce qui est dur. Et parfois, nous sommes très durs. Et on a besoin d'être aiguisé par le Seigneur. Et ça se passe pas par le Seigneur directement, mais à travers vous et moi. Nous sommes à tour de rôle un sujet de joie et de peine. Combien de fois nous avons attristé les gens et combien de fois nous les avons encouragés. C'est la condition humaine. Personne n'est parfait. Et nous avons besoin de nous rencontrer. Ce n'est pas une petite affaire de venir un dimanche matin comme aujourd'hui. Il peut y avoir des obstacles, beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher de venir. Mais quand on peut, on veut être là. Parce qu'on a besoin d'être aiguisé, affiné par le contact humain. La croissance spirituelle de l'Église n'est pas une affaire privée. Il faut remarquer, ce n'est pas une affaire privée. C'est un effort collectif. Vous le savez peut-être que tous les dimanches soirs, comme ce soir, j'ai un groupe d'hommes et nous sommes ensemble depuis quelques années, tous les dimanches. À quelques exceptions de près, et nous approfondir les Écritures. Et deux de ces personnes ne fréquentent aucune église, pour des raisons diverses. Et des fois, je les exhorte un petit peu de l'idée de trouver une église qui leur convient. Il y a dans la région assez d'églises, on peut choisir entre l'église formelle, pentecôtiste, ou entre les deux, chacun selon ses possibilités et ses goûts. Mais ces deux personnes, pour des raisons compliquées, ne fréquentent aucune église. Quel dommage pour eux. Quel dommage pour eux. Si on s'attend à ce qu'une église soit parfaite, eh bien, bon courage. Et dans tous les cas, si vous en devenez membre, l'église sera certainement imparfaite. Nous sommes des gens d'office imparfaits. Et il faut parfois supporter l'imperfection. Et le Seigneur est là pour nous aider. Ça, c'est une métaphore. Paul préfère en parler du corps plutôt qu'une langue qui aiguise, qui affine. Il dit, le corps humain nous permet de fonctionner, de marcher ensemble de bonne manière. Je vais lire un texte dans 1 Corinthiens. 14. Attendez. Je perds les repères. Encore qu'il dit, voilà. En effet, le corps n'a pas qu'une seule partie. Il en a plusieurs. Le pied peut dire, moi, je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps. Pourtant, il fait grande, il fait quand même partie du corps. L'oreille peut dire, je ne suis pas un pied, un oreille. Donc, je ne fais pas partie du corps. Pourtant, elle fait grand quand même partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que des yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que des oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il l'a voulu. Nous ne sommes pas là au hasard. Dieu nous a placés, au moins ce matin, ensemble. Et pour certains d'entre nous, Dieu voulant, tous les dimanches. Et nous arrivons le dimanche matin avec notre bagage à nous, parfois un bagage qui est lourd et parfois un bagage qui est léger. Et nous sommes là pour nous encourager mutuellement ou demander de l'aide. Nous avons effectivement dans notre famille des personnes qui ont grand besoin de l'aide, comme Kevin, ou comme Daniel avec son mari qui est très malade. Il y a d'autres problèmes bien sûr, mais ces personnes font partie de nos relations. Et nous avons l'occasion d'être utiles pour ces personnes. Ce n'est pas nécessaire d'être malade pour être secoué ou encouragé. Mais chaque personne a sa place, comme Paul dit avec l'analogie du corps. Et je ne sais pas si vous êtes un pied, ou un œil, ou une oreille, ou un nez, mais chacun a sa place. Chacun a sa place. Certaines parties du corps sont beaucoup plus évidentes. Le visage, enfin un peu moins avec le masque, mais chaque partie a sa place et il y a certaines parties qui sont très visibles et on s'en occupe pour que ça soit en bon état. Il y a d'autres parties du corps qui sont beaucoup moins évidentes mais essentielles. Je pense à Gay qui s'est fait opérer du pied. Ce n'est que deux qui pose un problème invisible, mais combien elle est handicapée pour une petite affaire. Les orteils ont le place à jouer dans le fonctionnement de sa vie. Il y a des personnes qui pensent, mais moi j'ai pas de don, j'ai pas de capacité, et c'est faux. C'est faux, complètement faux. Chaque personne a sa place. Peut-être la fonction d'être humble est déjà une place très importante. On vit dans un monde d'orgueilleux. Les gens qui aiment s'élever. On a beaucoup moins de gens qui aiment se baisser. Beaucoup moins de gens qui veulent se renoncer à soi-même. Jésus a dit, n'est-ce pas? Je le cite assez souvent parce que c'est un verset clé pour moi. Comme Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est la première des choses. Ce qui est central n'est pas vous, toi, c'est le Seigneur. Et dans le service que nous voulons rendre les uns aux autres, ce n'est pas l'importance du rôle, du don. C'est le fait de rendre service avec le don qu'il nous a accordé, que Dieu nous a accordé. Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il l'a voulu. L'oreille ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et la tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Au contraire, même les parties du corps qui semblent les plus faibles sont nécessaires. Les plus faibles. Et les forts ont besoin des faibles. Si tout le monde est fort, il est moins évident qu'est-ce qu'on peut rendre à ces personnes qui ont tout. Il y a toujours quelque chose à rendre, certainement, à donner. Peut-être êtes-vous, pensez-vous que je n'ai pas de don. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Il ne faut pas aller plus loin dans cette pensée, mais j'aimerais simplement dire, de la part du Seigneur, c'est faux. Vous avez un don. Il faut le découvrir, il faut le mettre en œuvre. Les parties qui semblent les plus faibles, obscures, cachées, modestes, sont nécessaires. Quand les parties du corps prennent soin les unes des autres, le corps est au top. Quand tous les membres prennent soin les unes des autres, le corps est au top. Et quel que soit le nombre de personnes, quel que soit le nombre, Gay et moi, nous venons d'une église en Californie à l'époque de 700 membres actifs le dimanche matin. Avec tous les dons imaginables, un orchestre, de tout. Très, très riche. Mais je peux vous dire que ce n'est pas le nombre de personnes qui compte. C'est la qualité des personnes qui fréquentent l'Église. Et cette qualité dépend des personnes qui dépendent du Seigneur. Ce qui compte, c'est que notre vie dépende entièrement du Seigneur. L'utilité du corps est préservée par la vigilance et solidarité des parties engagées. J'ai dit des parties, engagées. Une partie qui n'est pas engagée ne compte pas grand-chose, ne peut pas rendre service. On peut être un obstacle, mais il faut des membres engagés. Que l'on soit un orteil, une orteil, ou la tête, le visage, peu importe. Ce qui compte, c'est que chaque personne trouve sa place. Dès lors, si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle. La joie, si une partie est à l'honneur, toutes les autres partagent sa joie. Tantôt on est triste, tantôt on est joyeux. Et ça fait partie de la condition humaine. Ça arrive à nous tous et nous ne pouvons pas nous laisser intimider par nos succès ni par nos défaits. Défauts. Des fois, nos qualités, merci Seigneur, à ce qu'il nous permet d'avoir des qualités, quelque chose qu'on peut partager. Mais pour ne pas s'enorgueillir, penser que c'est grâce à moi que j'ai des qualités. Ne voulons plus que nos défauts nous intimident. Et dire que, puisque je suis tellement faible, on baisse les bras, on reste à la maison. Non. Chacun a sa place, tantôt pour pleurer, tantôt pour se réjouir. Je pense à un exemple de quelqu'un qui a connu, la personne n'est pas forcément chrétienne, je ne connais pas sa vie privée. Il s'agit d'un grand banquier aux États-Unis. Il était sur Wall Street à New York. Il avait une fonction de banquier très importante, il gagnait bien sa vie au-delà de ce qu'il avait besoin. Il avait des richesses et en concordance de circonstances, il avait tout perdu. Sa santé, son emploi, son argent et son mariage. Il était réduit à rien. Il avait les moyens pour payer le loyer d'un petit logement, un appartement. Mais avant, il avait beaucoup. Et pendant qu'il était banquier, il fréquentait un Starbucks, un café à New York. Et il aimait le contact humain, et il allait souvent à ce café, il bavardait depuis le beau temps et tout le reste, et il aimait ce contact. Et après la défaite totale de sa vie, il pensait même mettre fin à ses jours. Il a pensé à ce café qui lui avait toujours donné une certaine joie. Et les gens se plaisantaient avec lui, pourquoi pas vous embaucher et, avec nous, parce qu'il avait le contact facile. Et vers la fin, à un moment donné, après tout cet échec de sa vie, il a pensé à ça. Je me demande s'il pourrait m'embaucher. Et il s'est présenté à ce café et on l'a embauché. Il commençait à gagner assez pour payer le loyer de son petit appartement. Il n'y avait qu'un lit et quelques petits mots, tout ce qu'ils avaient. Au bout d'un certain temps, il a réfléchi sur le parcours de sa vie, le succès et l'échec total. Et il a retrouvé la vie. Non seulement lui, une certaine joie grâce à Starbucks. Et il a écrit un livre, Starbucks saved my life. Starbucks m'a sauvé la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le contact humain. Il a trouvé dans ce café le contact humain qui lui a permis de remonter l'échec total de sa vie. Bon, ça c'est sur le plan humain, je ne connais pas sa vie privée. Mais je peux vous dire, paradoxalement, ce livre s'est vendu par des millions. Il a retrouvé la richesse. J'espère qu'il n'a pas fait la même erreur que la première fois, mais il a retrouvé sa richesse par le paradoxe de tout perdre. Vous n'êtes pas, j'en suis sûr, aussi découragé que ça dans votre vie. Heureusement, le Seigneur nous protège. Mais il nous permettra de garder le contact humain, de renouveler cela, de s'investir dans cela, avec l'avertissement, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes. Dès que les choses commencent à marcher, il peut y avoir l'idée où c'est grâce à moi. C'est le premier pas vers l'échec. Dieu nous donne des lames de fer pour s'aiguiser. Et dans ce texte que je ne vais pas tout lire, mais en Corinthiens 12, il parle d'un certain nombre de hommes, il y en a sept, la liste n'est pas complète. La prophétie, rendre service, enseigner, encourager, donner, diriger, aider les pauvres. Il en parle aussi en un autre texte, avec une liste plus longue, des dons. Il ne prétend pas nous donner une liste complète des dons que Dieu ne peut nous donner. Mais Paul insiste à ce que ces dons soient mis en application. Quelqu'un qui n'a pas un don, qui pense qu'il a un don, mais qui le met dans le tiroir, ça ne sait pas grand-chose. Il faut que l'outil, le don, la présence de ces personnes fasse ce qu'il est nécessaire pour que ça soit avoir un effet. Nous avons tendance dans nos milieux évangéliques de mettre l'accent sur la foi. Ce qui est certainement quelque chose d'apprécié. Mais la foi sans des œuvres, c'est nul. Jacques nous le dit à plusieurs fois dans son épître, sans des actes, la foi est morte. La foi est morte, inutile. L'obéissance, ce n'est pas un mot que beaucoup de gens aiment. Et parfois, ça nous arrive aussi. On préfère être un peu plus libre. Et il m'a dit, Tom, est-ce que tu peux passer l'aspirateur? Je n'étais pas en mesure, j'étais en mesure de pouvoir faire cela. Et je dis souvent, mais quand tu demandes quelque chose, tu me prépares. Tu dis, par exemple, il faut emmener la poubelle à la rue. Quand vous aurez le temps, oh, peux-tu faire passer l'aspirateur quand tu aurais le temps? Merci, maintenant. Quand je fais une petite promenade dans la forêt, je vais parfois la poubelle est là devant la porte pour la porter à 50 mètres pour le déposer. Pour qu'elle n'a pas à me dire, est-ce que tu veux bien maintenant faire cela? Il y a une certaine résistance, mais cachée dans le mot obéir, une richesse profonde. C'est dans l'obéissance qu'on se retrouve. Et sans qu'on agisse selon la volonté de Dieu, c'est de faire marche arrière. Nous n'avons aucun intérêt de ne pas obéir au Seigneur. Être un avec lui. Aucun bénéfice. Aucun avantage. Et c'est la folie de penser que le Seigneur peut nous bénir sans obéir. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de paroles, de bonnes intentions, mais de puissance. D'action. Certains disent que la route à l'enfer est pavée de bonnes intentions. Nous sommes parfois coupables d'avoir beaucoup de bonnes intentions et sans aucun effort d'obéir. J'aimerais terminer ces réflexions avec un des textes que vous connaissez bien certainement, dans Luc, chapitre 6. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Où est le problème? Celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et m'obéit, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui construit une maison. Il a creusé la terre, il a creusé profondément. Il a posé les fondations sur de la pierre. Au moment de l'inondation, les eaux de la rivière se jettent sur cette maison. Mais elle ne peut pas la faire bouger. En effet, la maison est bien construite Mais celui qui écoute, celui qui croit, par exemple, mes paroles, celui qui croit, écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, voici à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui a construit une maison sur le sol, sans faire de fondation. Quand les eaux de la rivière se jettent sur elle, la maison tombe dans tout de suite. Elle est complètement détruite. Nous ne voulons pas construire sur du sable, mais sur les fondations solides qui s'appellent d'obéissance, d'être un avec le Seigneur. Pour les gens désobéissants, ils sont comme la paille emportée par le vent. C'est pourquoi au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas acceptés. Quand ceux qui obéissent à Dieu se ressemblent, il n'y a pas de place pour des gens désobéissants, gens mauvais. Oui, le Seigneur veille sur la vie de ceux qui lui obéissent, sur ceux qui font sa volonté. Et le chemin des gens désobéissants les conduit à leur perte. Que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas désobéir. Parole de Jésus. Je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple. Maintenant, vous savez tout cela. Et vous serez heureux si vous le faites. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Prions pour terminer. Père, merci de nous rappeler ce matin le privilège que nous avons de te connaître, d'être membre de ta famille, d'avoir ce contact humain qui nous affine, qui nous aiguise. Seigneur, aide chacun de nous à t'obéir, à utiliser le don que tu as remis entre nos mains. Que nous soyons pour toi, Seigneur, un sujet de joie. Et que nous puissions être aussi joyeux de voir toi à l'œuvre dans nos vies et dans la vie des autres. Bénis, Père, notre famille ici à Cavaillon. Aide-nous, Père, à être utiles. Que nous puissions être en mesure d'apporter aux autres et de recevoir ce dont chacun de nous a besoin. Nous te rendons grâce, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen.